Vivrons-nous demain ? Une émission de Jean-Pierre Estrampes. Architecture, urbanisme, cadre de vie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une émission sur une actualité qui est celle de la chaleur en ville, donc une actualité qui est dans ce début d'été, on n'y est pas encore, mais ça arrive. Et le problème de la chaleur en ville est un sujet dont on parle beaucoup dans les journaux, que l'on attend, que l'on voit à la télévision, que l'on entend dans les radios. Et justement, je voudrais, sur un ton un peu ironique, montrer quels excès on peut avoir dans les préconisations pour faire baisser la chaleur en ville. Et puis d'ailleurs, la première question, est-ce qu'on peut faire baisser la chaleur en ville ? Alors je rappelle, pour évidemment nous ne sommes pas à la télévision, mais vous le savez peut-être, que Radio Occitanie est dans un hôtel particulier de la Renaissance, donc avec une toute petite cour sur la morphologie de ces demeures prestigieuses, avec un escalier en colimaçon, une architecture de briques. Nous sommes à Toulouse, et cette architecture de briques qui est découpée par des rues et des places, et dans un quartier qui est particulièrement dense du vieux Toulouse, à côté de la rue Saint-Rome et de la place Esquirol. Et on parle beaucoup dans les émissions qui sont faites sur justement la chaleur urbaine et, d'une manière plus large, sur le confort des villes. On parle beaucoup d'îlots urbains surchauffés. Alors, c'est assez surprenant parce que je ne vois pas très bien ce que l'on veut dire par cela. Si je comprends bien, les îlots denses produiraient de la chaleur. Et j'ai l'impression, et je crois pas que ce n'est pas qu'une impression, qu'au contraire, quand on rentre dans ces rues étroites et dans ces petites cours, on trouve une fraîcheur qu'on ne trouve pas justement ailleurs. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de verdure, et la verdure, pour des raisons dont on parlera aussi, amène de la fraîcheur, mais l'histoire de l'îlot urbain qui produit de la chaleur, elle est produite par des effets qui sont les effets des hommes. Alors, je fais un petit rappel, c'est que les villes qui sont supposées être chaudes par nature, il faut rappeler que les villes n'étaient pas chaudes avant et que les villes étaient aussi froides que les campagnes. Il n'y avait pas la température des villes et des campagnes était la même. Je parle évidemment des temps anciens, avant l'industrialisation. Alors la différence avec l'industrialisation, c'est que l'on a eu des machines. Alors c'est vrai qu'il y avait aussi de la combustion, mais elle était très limitée. Et on peut dire que la combustion par le charbon, notamment dans les villes qu'on connaît à Londres, le fameux smog, smoke and fog, la fumée et le brouillard, mais c'est des choses d'ailleurs qui ont totalement disparu. Alors, les villes objectivement, sont plus chaudes aujourd'hui, et tout le monde peut le vérifier d'une manière simple. On arrive en voiture de la campagne, ou du moins des environs de la ville ou de la ville agglomérée, et on voit le compteur de température qui monte et qui peut arriver à monter avec une différence de 3 degrés, ce qui est assez considérable entre la périphérie, l'extérieur, et la ville elle-même. Alors, je pense que c'est assez une évidence, c'est que ce ne sont pas... Alors, si, la question, ce serait que les murs accumulent la chaleur, alors ce qui est une réalité, mais on va en parler. Mais l'essentiel de la chaleur, qui est la chaleur de la ville aujourd'hui, est produite par les combustions. Alors, en premier lieu, effectivement, ce sont les combustions des voitures. C'est vrai que les usines sont parties à l'extérieur et ce ne sont plus les usines du 19e siècle qui chauffent la chaleur, mais aussi on a la conséquence du progrès et de la mécanisation et de la réfrigération et de l'air conditionné. L'air conditionné fait baisser la température à l'intérieur des bâtiments et en contrepartie, parce que rien ne se crée, tout se transforme, on émet de la chaleur. Et tout le monde peut le constater, et qu'il y a un échange physique, c'est-à-dire que la température qui baisse fait une température inverse plus chaude. Et cela produit, cet ensemble de facteurs produit ces degrés de température en plus dont je vous parlais. Alors, là où je vais être un peu ironique, c'est sur les remèdes qui sont proposés avec une supposition qui est fausse, c'est-à-dire que la masse des îlots produirait de la chaleur, attendu qu'il s'agit d'un autre phénomène, c'est-à-dire que la masse accumule la chaleur, mais elle ne produit pas de la chaleur. Alors, je pense sur cette fausse vision, on a décrété que si on peignait en blanc les immeubles et les toitures, on abaisserait la chaleur. Alors ça, c'est basé sur une fiction qui serait que les villes du Maghreb, certaines en tout cas, c'est pas la totalité, sont peintes en blanc. Et que, de ce fait, ces villes sont fraîches parce qu'elles sont peintes en blanc. Alors, il faudrait d'abord rappeler que d'abord, tous les villages anciens ne sont pas en blanc. Ils peuvent rester de la couleur de la terre, de la couleur ancienne. Et que la fraîcheur, elle est comme à Marrakech, dans les Riades, comme Toulouse, ville du Sud, également. Et que la peinture blanche ne fait pas baisser la température. Alors, ce serait... c'est une chose assez étonnante parce que Toulouse, puisque nous en parlons et que la critique va porter sur cette ville, mais c'est un peu général, prétend que on va blanchir les voies. Et j'ai, pour faire un raccord avec la mission de la semaine dernière, que en peignant en rouge les pistes cyclables, on va faire baisser la température de la ville. Par rapport au noir du goudron. Alors évidemment, alors ça c'est de la fabulation totale, et je dirais même que ce que l'on appelle l'effet albédo, on a très mal compris de quoi il s'agissait. Alors, rappelons quelques principes de physique simple. Alors, il ne s'agit pas de faire un cours de physique. Il s'agit simplement de rappeler, c'est de la physique pour les nuls. C'est ce que l'on apprend à l'école primaire et où on apprend le fait de la réfraction de la lumière et aussi les problèmes de conductibilité. Alors, si vous peignez une surface en blanc, la surface n'est pas plus froide. Au contraire, le blanc réfléchit la lumière au lieu de l'absorber, ce qui est le cas par exemple du macadam. Le macadam amène de la chaleur à l'intérieur de la matière, et par contre, le blanc le réfléchit. Et effectivement, le soir, par exemple, les murs en briques vont redonner la chaleur accumulée, mais tout le monde a pu constater que si vous mettez devant, en plein été devant un mur blanc, vous allez rôtir, et que si vous mettez devant un mur en briques ou un mur en pierre ou un mur foncé, et puis tout le monde a pu faire l'expérience également que sur une plage où le sable est blond ou blanc, dans la partie haute, loin de la mer, on se brûle les pieds en été, mais par contre vous pouvez marcher sur la route parce que la route noire absorbe la chaleur, et que le sable, effectivement, si vous grattez, vous trouverez du frais, mais sur la surface, on ne peut pas marcher et on se brûle les pieds. Alors, c'est quand même assez différent, c'est que j'ai vu des articles dans les journaux d'hiver, Libé avait un numéro spécial, même Le Figaro, sur ce sujet, qu'à Paris, l'adjoint au maire Béliard, adjoint au maire à l'urbanisme, proposait de peindre les toits de la ville en blanc de Paris, c'est-à-dire les toits en ardoise et les toits en zinc, on voit tout à fait ça, et comme cela, ça devait faire baisser la température de la ville de 7 degrés. Alors là, c'est assez sidérant, parce que effectivement, on est sur du délire total. Alors, vous me direz, c'est bien beau de critiquer, mais quelles sont les recettes pour faire baisser la température? Je vous dirais qu'en fait, les recettes, il n'y en a pas beaucoup. La seule manière de faire baisser la température, c'est une loi physique, c'est l'évaporation. Alors effectivement, si vous avez des brumisateurs, vous avez l'effet d'évaporation qui fait baisser la température, mais c'est un échange, c'est-à-dire que la température en partie haute est transformée en vapeur, et donc, c'est-à-dire les degrés que vous avez en moins vont se transformer en des degrés en plus au-dessus. C'est-à-dire que les étages qui seront au-dessus des brumisateurs auront la vapeur d'eau et auront la température qui augmente. Encore une fois, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors, les arbres, effectivement, c'est intéressant, mais enfin, il faut pouvoir les mettre. Dans la ville ancienne, il faut des racines, et souvent les sous-sols sont occupés par des canalisations, et les arbres ont cette propriété de pouvoir aller puiser l'eau dans le sol, et par l'évaporation des feuilles. Alors évidemment, il y a aussi l'ombre sur les façades, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de rayonnement, il peut y avoir il y a moins d'accumulation sur les parties, mais on aura aussi le même phénomène d'évaporation, c'est-à-dire que les parties hautes, et si on fait des immeubles hauts, ben, il y aura la chaleur augmentée pour les parties basses. Mais bien sûr, si on arrose le sol, et si c'est, on aura cet effet d'évaporation. Bon, voilà mon propos. On va marquer une pause musicale et nous reprendrons cette causerie. Thank you. Nous reprenons après cette, ce petit voyage dans la chaleur urbaine. Je voulais parler de l'écologie d'une manière générale. Et c'est vrai que je dénonce une interprétation pseudo-scientifique où on a plein la bouche des mots comme dit la science et en fin de compte on se rend compte que il y a beaucoup de si ce n'est des erreurs scientifiques des manipulations. Et quand on parle avec les écologistes purs et durs, ils vous disent « mais c'est pas très important, ce qui compte c'est fait pour la bonne cause ». Alors moi ça me gêne un peu toujours la bonne cause, même si on est tout à fait du même avis. Et je veux dire, l'écologie a pour elle des vertus qui sont indéniables, d'économie, de respect de la nature, des sols, de la non-pollution. Je veux dire, on ne peut pas être contre tout cela. Simplement, la rigueur scientifique et la vérité, tout simplement, permettrait d'une part de ne pas faire des solutions qui n'en sont pas, et notamment celles dont je viens de parler tout à l'heure par rapport à peindre les toitures en zinc et en ardoise en blanc, ce qui est d'ailleurs, j'ajouterais, ce qui serait non seulement absurde, coûteux, mais en plus de ça, très polluant, parce que les matériaux, ce n'est pas simple de peindre les matériaux, et autant on peut peindre un mur poreux en blanc, avec une, du moins avec une certaine porosité, mais peindre les surfaces lisses, on a la peinture qui ne tient pas, qui se projetterait dans l'air, et qui serait justement particules fines, etc. Donc ce serait pour un bien tout à fait aléatoire et où on aurait des effets négatifs très importants. Alors, c'est justement cette approche qui, comme je vous disais, l'écologie qui, pour se justifier, va aller en des excès en disant « nous travaillons pour la bonne cause, donc nous ne pouvons exagérer et ne pas respecter certaines choses ». Et ça me paraît extrêmement dangereux, parce que au nom justement des bonnes causes, on a aussi une aggravation de la situation existante. Et je me souviens très bien, quand j'étais enseignant en école d'architecture, d'avoir des étudiants qui annonçaient que l'urbanisation des villes, les villes allaient être couvertes de bâtiments, que c'était monstrueux, qu'on allait avoir plus de place. Et alors évidemment, je les ramenais sur la réalité de l'urbanisation en France et aussi dans les autres pays. Et c'est assez facile de faire les analyses sur les cartes Google, de regarder regardé avec les chiffres, mais l'argument était toujours le même. Oui, d'accord, mais enfin, on se bat pour la bonne cause. Et donc cette bonne cause, elle est aussi, si ce n'est pessimiste, mais je dirais même, elle peut être une dramatisation de la condition humaine et des conditions que nous avons, en disant, nous allons avoir avec le réchauffement climatique une extinction massive des populations, les déplacements qui vont être sur des millions de personnes, mais tout ça, évidemment, me paraît bien excessif, et on aura aussi sur les océans sur la pollution. J'ai eu parlé aussi du nombre de cancers qui étaient dus à la pollution urbaine, et le président de la République lui-même, le cher Emmanuel Macron, ayant annoncé qu'il y avait 100 000 morts chaque année en France de pollution urbaine, et que c'était la première cause de mortalité. Alors là aussi, on me dit, je dis, mais ça se saurait, ça ferait 20 millions de morts depuis la dernière guerre, et puis on verrait que tous les gens meurent très jeunes dans les villes, et que si on habite dans un village à la campagne, on pourrait devenir centenaire. Effectivement, c'est même l'inverse, pour des raisons qui sont évidemment pas liées, qui sont liées à la proximité des hôpitaux, les dates de mortalité dans les grandes villes sont un peu plus faibles que dans les campagnes. Et là toujours, c'est l'argument qui a été employé pour les aider des feux, mais on est pour la bonne cause. Donc, et là, je voulais ramener à l'actualité immédiate où on a eu, et ce n'est pas évidemment la thématique de cette émission, on a eu des crimes, on peut dire, incompréhensibles, faits par des adolescents. Et on ne trouve pas de raison, ni dans le milieu familial, dans les antériorités, tout ce qui explique d'ordinaire dans ce positivisme qui veut tout expliquer. Et on est devant un mystère, et tout le monde dit, mais comment cela peut être ? Alors, c'est une chose dont personne n'ose parler, et je vais le dire. Et s'il y avait aussi un désespoir qui était donné à notre jeunesse aujourd'hui, en leur disant, le monde de demain va être invivable, et quelque part, la vie humaine, puisqu'il y a des millions de gens qui vont mourir, la biodiversité, les animaux vont disparaître, la nature est également, et quelque part aussi, à quoi faire des enfants, puisqu'ils vont vivre devant un monde impossible. Alors ne faites pas des enfants, et au fond, la vie humaine, un peu tôt ou un peu tard, c'est exactement pareil. Donc je pense que je vois, par rapport à mes enfants, ce qui était enseigné en sciences de la vie et de la terre me paraît, par rapport à déjà le changement de sciences de la vie et de la terre par rapport aux anciennes sciences naturelles, me paraît quand même bien orienté sur ces thématiques-là, et on commence dès les petites classes à inculquer ces principes, on peut dire, d'une vision très pessimiste de l'histoire. Alors, je terminerai par l'histoire d'un film. C'est un film qui a été fait en 1998. Ce film s'appelle « La vie est belle ». Et c'est un film qui a été fait par Roberto Benigni, qui est un comique italien. Alors, il n'avait pas eu la Palme d'Or au Festival de Cannes, mais il avait eu le Grand Prix du Festival de Cannes. Et c'est une scène qu'on repasse de temps en temps à la télévision, pour ceux qui étaient trop jeunes pour l'avoir vu à ce moment-là. Il y a une scène absolument loufoque et très très drôle, où on a ce comique sympathique, Roberto Benigni, qui reçoit le prix et qui prend dans ses bras Martin Scorsese, qui est complètement figé et sidéré, se prosterne devant lui, lui baise les pieds, c'est totalement, et qui déclare: j'ai eu la Palme d'Or, attendu que évidemment c'était pas lui qui l'avait. Alors le film est un film qui parle des camps de concentration. Alors évidemment, on peut dire que ça m'avait surpris. Je m'étais dit, un film comique sur les camps de concentration, c'était un peu dérangeant. Mais en l'ayant vu, et c'est un film qu'on peut voir et revoir, c'est un film sur l'espoir qui est donné par un juif qui est en Italie, qui a été déporté par les fascistes italiens dans un camp de concentration, et qui montre à son fils et lui fait croire qu'ils sont dans une sorte de jeu vidéo, on pourrait dire, d'un escape game, pour lui enlever l'angoisse, même si la mort est proche. De toute façon, la mort, elle est toujours au bout du chemin pour nous tous. Et donc, ce film m'avait ému, parce que c'était pas du tout ce que je craignais, mais c'est un film qui montre que ce père qui fait tout pour rendre cette fin, bon, après il y a une fin heureuse, mais la mort inéluctable de cette horreur qui était les camps de concentration, de rendre le futur agréable. Et je crois que c'est le rôle des parents. Et la question que je pose, est-ce qu'aujourd'hui on ne dit pas à nos enfants no future, et au contraire vous n'avez aucun espoir, et rendre les gens malheureux, et ne pas avoir ce rôle qui ont été le rôle dans toutes les générations, de dire c'est très bien maintenant, et pas c'était mieux avant, et le futur est angoissant. Voilà. C'était Où vivrons-nous demain ? Je remercie comme toujours l'excellent Grégor à la technique, et puis les trois spectateurs de l'école de journalisme et une étudiante du Mirail qui ont assisté d'une manière tout à fait sage et à cette émission et à cet enregistrement.